Une petite transition avant de revenir sur la réalisation de l'unité italienne. Vous avez vu qu'au moins deux symboles existent en 1849-50. C'est un drapeau qui date donc de la période napoléonienne, mais qui est imité, bien sûr, du drapeau français, le vert ayant remplacé le bleu. Et un hymne que vous venez d'entendre et qui vous en souvenez sans doute et a été composé en 1847-1848. Alors, nous allons revenir à la carte, puisque en 1849, ni le royaume du Piémont, ni les républicains de Venise et de Rome n'ont réussi dans leurs entreprises pour chasser l'Autriche ou installer des régimes républicains. Alors, l'Italie est jusqu'en 1860 toujours divisée en 8 États. C'est la position de départ. Mais il faut savoir que tout de même, il y avait un certain nombre d'enseignements dans la défaite. C'est que l'idée d'unité italienne avait quitté les quelques cercles assez restreints des années auparavant pour élargir son audience, non pas chez les masses populaires qui sont encore très pauvres, très isolées et encore peu concernées, mais surtout s'est élargie à une grande partie de la bourgeoisie et un certain nombre de classes moyennes. D'autre part, il est apparu que le Piémont, par le courage de son roi, qui à deux reprises a essayé de régler l'affaire avec l'Autriche, le Piémont apparaissait comme le pivot de cette future unité nationale. Mais il était évident également, vous en souvenez sans doute, que le Piémont seul ne pourrait rien contre la puissante Autriche. Alors nous arrivons dans les 20 dernières années qui vont voir concrétiser cette unité italienne. Alors, il y a d'abord, et ça va être trois parties essentielles, il y a d'abord une phase préparatoire pendant laquelle Cavour tire les leçons des expériences précédentes décevantes. Et puis, il faudra trois guerres successives pour aboutir au résultat final. La France étant à chaque fois impliquée d'une manière active en 1859, contre l'Autriche, puis d'une manière diplomatique en 1866 pour l'acquisition de la Vénétie, enfin à son corps défendant en 1870 dans la guerre contre la Prusse. Alors abordons le premier thème, celui des préparatifs de Cavour. Le grand homme de l'unité italienne, c'est lui, Camille Binceau, comte de Cavour, que vous voyez ici, à l'âge à peu près d'une cinquantaine d'années. Et il était né en 1810 à Turin, d'une vieille famille de l'aristocratie piémontaise par son père et d'une grande famille savoyarde par sa mère. Sa mère était l'arrière-arrière-petite-nièce de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, c'est l'invitation à la vie dévote, ou encore l'amour de Dieu, le traité de l'amour de Dieu. Eh bien, saint François de Sales était effectivement extrêmement célèbre, et la grand-mère de Cavour avait été dame d'honneur de Pauline Bonaparte, qui était l'épouse du prince Camille Borghese. Et c'est ce prince qui avait tenu Cavour sur les fonts baptismaux et qui lui avait donné son prénom. Je m'excuse, je ne vois pas très... oui. Il faut que je suive ma pensée, là. Sa langue maternelle, c'était le français. Vous voyez, et s'il parle l'italien dans la vie politique, c'est une nécessité, eh bien, c'est uniquement par nécessité. Alors, il va d'abord embrasser une carrière militaire dans le génie, dans les fortifications. Mais comme il est d'idée libérale, lors des révoltes de 1831, il est, en quelque sorte, il est obligé de démissionner. Et alors, sa famille va lui confier la gestion d'un grand domaine rizicole dans le Piémont, et il va devenir une sorte de gentleman farmer. Et cette fonction va lui procurer des loisirs. Il va voyager en France et dans l'Europe. Et comme il est allié à la grande famille française des Clermont-Tonnerre, eh bien, cela lui ouvre toutes les portes. Il va rencontrer, par exemple, Louis-Philippe. Il va rencontrer les cercles qui sont autour, par exemple, d'Alexis de Tocqueville. Par conséquent, vous voyez, c'est un homme qui a beaucoup d'entre-gens. Alors, dans ses pérégrinations à travers la France et l'Europe, il s'intéresse surtout au fonctionnement de la vie parlementaire, parce que dans le Piémont, c'est encore quelque chose de tout récent. Et il va s'intéresser aussi spécialement au chemin de fer. Vous savez, par exemple, que l'une des premières lignes, c'est Paris-Orléans en 1843. Donc, vous voyez, dans les années 1840, c'est quelque chose qui est tout à fait à la mode, qui démarre. Et ça lui plaît tellement qu'il va devenir le principal actionnaire de la ligne Turin-Gênes, qui est la première ligne du Piémont, en 1846. Ces pérégrinations font que, au départ, il est plus européen qu'italien. C'est un point tel qu'il connaît. Il ne connaît pas Rome, il ne connaît pas Venise, il ne connaît pas Florence. Par conséquent, vous voyez, il est italien simplement par le Piémont. Alors en 1847, ah voilà, 1847, c'est quand même mieux. Allez. Non mais c'est bien. En 1847, il profite de la libéralisation pour fonder un journal. J'en ai parlé la dernière fois, c'est Il Risorgimento. C'est tout un programme, bien sûr, et il pense que la monarchie constitutionnelle du Piémont peut être l'axe qui permettra de réaliser l'unité. Il entre en politique en 1848. Il est élu député, et le 11 octobre 1850, à 40 ans, il devient ministre du commerce, de l'agriculture et de la marine dans le gouvernement de Massimo D'Azeglio, dont on a déjà parlé aussi. Puis, le 2 novembre 1852, eh bien, il devient président du Conseil. Et pendant 9 ans, jusqu'à sa mort en 1861, en dehors d'un court intermède, eh bien, il sera le principal acteur de l'unité italienne. Et c'est une chance pour l'Italie, car il a d'immenses qualités. C'est un homme d'une intelligence très aiguë, il a une formidable capacité de travail, il a du dynamisme, c'est un diplomate, il sait calculer ses risques, c'est un peu un joueur par certains côtés, il sait exploiter les circonstances. Donc c'est une sorte de réaliste en politique qui va mettre toutes ses facultés au service de l'unité italienne. Alors c'est une unité, c'est une personnalité autrement forte que celle du roi Victor Emmanuel II, que vous avez ici, jeune, avec l'appareil pileux tout à fait caractéristique de l'époque. On pense à Napoléon III, à la barbichette, les moustaches très, très longues. C'est un souverain qui est peu instruit, peu cultivé. Il aime surtout les armes, la chasse, les femmes. Ce n'est pas un roi très travailleur, mais il a une très vive conscience de ses prérogatives royales, d'où des relations parfois délicates avec Cavour, surtout quand Cavour se mêle de sa vie privée. Il n'est pas toujours très raisonnable. Mais il a quand même su faire prévaloir la raison d'État sur ses passions et appuyer son ministre. Alors, l'œuvre de Cavour va s'exercer sur deux plans, au plan intérieur et au plan extérieur, c'est simple. Au plan intérieur, il s'emploie à la modernisation de la société. Il améliore les codes juridiques, par exemple, il laïcise partiellement, il supprime les ordres religieux, Il vend leurs biens, mais il attache surtout beaucoup d'importance à l'économie. Alors, cette économie passe par l'équipement du Piémont. Et l'équipement va être financé par des emprunts étrangers. Par exemple, les Rothschild français, vont beaucoup investir au Piémont. Alors, c'est la construction de voies ferrées, c'est la grande période, comme en France, sous Napoléon III. C'est une phase de croissance après la découverte des mines d'or en Australie. C'est une phase de croissance et l'Italie, le Piémont, en profite. Alors, construction de voies ferrées, développement de la marine, développement des échanges, développement de l'industrie, creusement de canaux d'irrigation. Vous voyez que le Piémont se modernise et c'est manifestement l'État le plus moderne de l'Italie à partir des années 1850. Alors cela se contraste avec la position d'un Ferdinand II. Ferdinand II, c'est le roi de Naples. Il avait lui aussi essayé de moderniser son pays. La première ligne de chemin de fer en Italie, c'est dans le royaume de Naples. Et il avait accordé une constitution à son peuple. Mais il avait été tout à fait apeuré par la révolution qui avait eu lieu à Rome, qui était à ses frontières. Alors, il avait accueilli à Gaète, c'est une place forte qui est au bord de la mer, hein, au long d'un golfe très intéressant, il avait accueilli le grand-duc de Toscane et le pape, qui avait été chassé par les révolutions. Mais, apeuré, il va mater les velléités de sa bourgeoisie pour l'unité italienne, qui risquerait, bien entendu, de lui coûter son trône. Et pour la façon dont il a réprimé le soulèvement de la Sicile, et notamment il a repris Palerme, il a mérité le surnom de Re Bomba, le roi bombe. De même, Pie IX, qui est rentré à Rome en 1850, eh bien, Pie IX mène une politique conservatrice, antilibérale, antirépublicaine. Il a pris en horreur les idées libérales. Pourtant, vous savez qu'à son arrivée sur le trône pontifical, il avait suscité beaucoup d'espoir. Et dans l'annexe à l'encyclique Quanta Cura de 1864, le fameux Syllabus, eh bien, il condamne, et je cite, « toutes les erreurs modernes ». Les erreurs modernes, c'est le libéralisme, le socialisme, le rationalisme, la démocratie. Donc, il est encouragé à ce retour en arrière par le grand mouvement du ultramontain. Vous savez que le mouvement ultramontain qui traverse le XIXe siècle, c'est le mouvement qui confie au pape la mission de diriger l'Église en monarque qui va aller à l'infaillibilité en 1869. Donc, son prestige dans le monde catholique est très grand. Donc, il en profite. Alors, au plan extérieur, eh bien, Cavour mène une politique très active. Et le point d'orgue de cette politique, c'est la participation à la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, vous vous souvenez sans doute, oppose les Anglais et les Français aux Russes. Il s'agit d'empêcher les Russes d'accéder au détroit, le Bosphore et les Dardanelles, donc de surgir dans la Méditerranée et donc de reprendre Constantinople, la troisième Rome. Alors, le siège de Sébastopol a été un siège très long et très difficile, et il a fallu trouver des concours. Les Autrichiens sont récusés, et Cavour a sauté sur l'affaire, en quelque sorte. Il a proposé et fait accepter par le Piémont l'envoi de 20 000 hommes en Crimée, bien que peu concernés par le conflit. L'armée sarde était en cours de réorganisation, la flotte de guerre avait été renforcée. Il pouvait, au fond, consacrer ses forces à cette guerre. Eh bien, sa participation va coûter 2 500 hommes, surtout morts de maladie. Mais l'action des Italiens avait été suffisamment glorieuse pour déterminer un certain enthousiasme dans le pays. Et surtout, elle avait permis au Piémont de participer au Congrès de Paris. Le Congrès de Paris, en 1856, règle le problème de la guerre de Sébastopol. Alors, vous voyez les diplomates qui sont réunis au Quai d'Orsay tout neuf, velours, les ors, et vous avez les personnages principaux, ici au centre, je ne sais pas s'il y a le pointeur, vous avez le ministre des Affaires étrangères français, c'est le comte Walewski, c'est le fils de Napoléon, et ici, et vous avez ici Cavour. Alors vous voyez, sa place est très modeste, il est sur les côtés, à la périphérie, mais il a réussi à poser le problème de l'unité italienne, de la question italienne, face à l'oppression autrichienne. Et ceux qui ont été les plus réceptifs, ce sont les Anglais et les Français. Alors, ce succès et cette modernisation que nous venons de voir ont fait du Piémont donc le foyer du Risorgimento, ce qu'il était déjà, mais ça l'a renforcé dans son action. Et de nombreux patriotes, toute une élite intellectuelle, s'est précipitée à Turin. Alors, les Piémontais ont naturalisé ces gens de bonne volonté qui venaient chez eux, et ces gens ont été intégrés dans l'administration, dans l'université, dans la vie intellectuelle, en fonction de leurs compétences. C'est ce qui prépare la future osmose pour l'unité italienne. Alors, parmi ces personnages qui viennent, on va voir quelqu'un que nous avons déjà eu l'occasion de connaître. Si vous étiez là quand on a parlé de l'Éthiopie et du rêve italien, c'est Francesco Crispi. Francesco Crispi est un Sicilien qui est accouru à Turin et qui a été utilisé par la monarchie. Alors, moins important sans doute, mais symboliquement intéressant, c'est le ralliement d'un certain nombre de Mazyniens après l'échec récurrent de leur tentative d'insurrection. Alors, si Mazzini, condamné à mort et exilé, n'est jamais venu, il y en a deux hommes très intéressants pour Cavour, c'est Garibaldi, bien sûr, et puis Manin. Manin, c'est celui qui avait fait la révolution de Venise. Et Manin, donc, adhère à la politique de diplomatie et de réformisme de Cavour. Et il a cette formule, « Faites l'Italie et je suis avec vous, sinon, non. » Donc, vous voyez, il y a un certain regroupement autour du Piémont. Il ne reste, bien entendu, qu'à convaincre, et ce sera ma deuxième partie, il reste à convaincre la France de Napoléon III d'intervenir. C'est la seule en mesure de le faire. Or, l'empereur a, je pense qu'on va le voir, voilà, donc posant avec la couronne, le sceptre, la croix, la Légion d'honneur, l'empereur a beaucoup de sympathie pour l'Italie. Et il a vécu en Italie les années d'exil après 1815. Il avait participé d'ailleurs au Risorgimento comme carbonaro, ou peut-être pas d'une manière très, très active, mais son frère aîné, il s'appelle Napoléon Louis, alors que lui il s'appelle Louis Napoléon. Napoléon Louis que vous avez ici, lui il a combattu très activement, il est mort en 1831 à Forlì, en combattant contre les Autrichiens. On ne sait pas d'ailleurs dans quelles conditions il est mort. Est-ce qu'il est mort de la rougeole? Est-ce qu'il est mort en combattant? Est-ce qu'il est mort en combattant alors qu'il avait la rougeole? N'est-ce pas? On ne sait pas très bien. Bon, toujours est-il qu'il y a tout de même, chez Napoléon III, de la sympathie pour la cause italienne. En 1831, d'ailleurs, il avait été obligé de fuir avec sa mère en Suisse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Napoléon a fait 2 tentatives sous Louis-Philippe pour essayer de s'emparer du pouvoir en soulevant des garnisons. Une fois à Strasbourg en 1836 et une fois à Boulogne en 1840, avant d'être interné, incarcéré au fort de Ham. Bon, ben, c'est des tentatives tout à fait dignes des Carbonari. C'est tout à fait cela. Donc, il agissait encore à cette époque-là comme un Carbonaro. Ils se sont donc un petit peu italiens, et la politique de Napoléon III, confortée par le succès du Congrès de Paris et la guerre de Crimée, eh bien, c'est de remettre en cause les traités de 1815. Et de quelle manière ? Par le principe des nationalités, c'est-à-dire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le cas italien est tout à fait caractéristique dans ce domaine. Donc, il est poussé à prendre en considération la question italienne, et l'Angleterre serait plutôt favorable à cette évolution. Mais, d'une part, Napoléon III ne souhaite pas un nouvel État puissant à nos frontières, seulement il voit une sorte d'État fédéral, plus ou moins satellite économique et politique de la France. Et l'opinion publique française, en dehors d'une petite coterie intellectuelle autour d'Alexandre Dumas et de Georges Sand, n'est pas très chaude pour l'unité italienne, surtout les catholiques. Qu'est-ce que craignent les catholiques ? C'est que les États de l'Église disparaissent dans l'opération. Or, il y a une sorte de dogme qui est très caractéristique, surtout en France, c'est que le pape ne peut exercer son magistère spirituel qu'assis sur un pouvoir temporel. Donc, ce serait extrêmement grave que l'unité italienne débouche sur la disparition des États de l'Église. Donc, Napoléon III doit jouer serré vis-à-vis de son opinion. Or, le 18 janvier 1858, alors que le couple impérial se rend à l'opéra, 3 bombes fauchent le cortège, faisant 4 morts et de nombreux blessés. L'empereur et son épouse n'ont rien. Et c'est un ancien Mazzinien, Orsini, vous le voyez ici, un ancien Mazzinien, qui est l'auteur de cet attentat. Il voulait punir Napoléon III de n'avoir rien fait pour délivrer l'Italie. Et lors de son procès, et avant son exécution, que vous voyez à gauche, il a été guillotiné, eh bien, il a adjuré Napoléon d'aider la nation italienne à se constituer. Eh bien, Napoléon a été très impressionné. Tout en refusant la grâce, puisqu'il est exécuté, il a été impressionné et il a laissé publier les lettres d'Orsini dans lesquelles celui-ci demandait à Napoléon de faire quelque chose pour l'Italie. Alors, c'est dans ces conditions qu'il invite Cavour à un entretien secret à Plombières. Plombières, certains d'entre vous connaissent peut-être cette petite ville d'eau des Vosges, au flanc lorrain des Vosges, fréquentée par l'empereur, c'est la grande mode à l'époque, et vous avez ici les thermes Napoléon d'ailleurs, qui ont été construits à cette époque. Alors, sous prétexte d'aller faire une cure, eh bien, Napoléon reçoit Cavour au mois de juillet, et on ne connaît pas ce qui s'y est décidé, sauf par les archives de Cavour. Alors, on sait que Napoléon s'est déclaré prêt à aider militairement et financièrement le Piémont en cas de provocation autrichienne. Et il expose à Cavour son plan de remaniement de l'Italie. Et selon un plan fédéral, en 4 États, présidé par le pape. Alors, vous voyez, on en revient à Gioberti, à l'abbé de Gioberti. 4 États, le Piémont s'agrandirait, je n'ai pas la carte, mais ce n'est pas grave, s'agrandirait de la Lombardie, de la Vénétie, de Parme, de Modène et d'une partie, non, c'est pas la peine, d'une Parme et d'une partie de la Romagne. Un royaume d'Italie centrale serait composé de la Toscane et d'une partie des États pontificaux et ce pourrait être attribué à Jérôme Bonaparte, qui est le cousin germain de l'empereur, dont le mariage avec la fille de Victor Emmanuel II, Clotilde, est donc conclu. Ils se marieront l'année suivante. Le royaume de Naples resterait tel quel, et de même que les États de l'Église, malgré une petite diminution en Romagne. Alors, en contrepartie, la Savoie et Nice reviendraient à la France. Alors, va suivre une période d'incertitude où les tensions s'avivent entre la France et l'Autriche, entre l'Autriche et surtout le Piémont, car l'exaltation en Italie ne faiblit pas. Des souscriptions ont permis l'achat de canons. Et Garibaldi est chargé d'enrôler des volontaires qui affluent de tout le pays. Les Britanniques essaient de désamorcer ces tensions en proposant un congrès sur l'Italie, sur la question italienne. Mais en 1859, en avril, l'Autriche préfère devancer une éventuelle attaque et envoie un ultimatum au Piémont d'avoir à désarmer et à licencier les volontaires. Alors Cavour refuse, et vous voyez, c'est le casus belli magnifique, la France va pouvoir intervenir puisque le Piémont est attaqué par l'Autriche. Alors, je ne me lancerai pas dans le détail des opérations militaires. Les Français, commandés en personne par Napoléon III, sont arrivés par mer à Gênes, mais aussi ont traversé les cols alpins. Et cette guerre est caractérisée par la médiocrité des deux commandements, français et autrichien, par une impréparation stratégique, qui va nous coûter cher en 1870, d'ailleurs, entre parenthèses, et les horribles boucheries qui en découlent. Alors, Magenta, c'est la première grande victoire que vous avez ici. Vous voyez, c'est à la limite de la Lombardie, ici, au moment où l'armée française pénètre en Lombardie. Et la deuxième, c'est Solferino, le 24 juin. Vous voyez, mais le quadrilatère n'est encore pas enfoncé. Et brusquement, sans prévenir Cavour, Napoléon III décide de signer un armistice avec l'empereur d'Autriche. L'armistice à Villafranca, vous voyez ici, et il a été impressionné par les 40 000 morts et blessés de la bataille de Magenta. Et il y en a autant à Solferino. C'est une véritable boucherie. Et c'est à ces boucheries qu'assiste Henri Dunant, celui qui va fonder la Croix-Rouge en 1864. Et puis, Napoléon est soucieux d'avoir affaire, nous sommes au mois de juin, c'est vrai, et juillet à Villafranca, d'avoir affaire éventuellement une campagne d'hiver avec le quadrilatère surarmé des Autrichiens. Et les Autrichiens qui avaient fait retraite en bon ordre. Mais il y a quelque chose de pire qui arrive. C'est que l'attaque des Français contre les Autrichiens, les victoires, ont fait souffler un vent anti-français en Allemagne et la Prusse a mobilisé 400 000 hommes sur le Rhin. Donc, vous voyez, prête à prendre à revers la France. Dans ces conditions, on comprend pourquoi Napoléon III a préféré cesser la guerre. Alors, Cavour est furieux. Cavour est furieux, il démissionne. Victor Emmanuel accepte cette situation à titre personnel, n'engageant pas son gouvernement. Et les Italiens s'indignent. Ce qui fera dire à Massimo Zazeglio, qui n'est pas en veine de formule, aller en Italie avec 200 000 hommes, dépenser un demi-milliard, gagner 4 batailles, on a eu quelques petites annexes, vous voyez Montebello ici, par exemple, gagner 4 batailles, restituer aux Italiens une de leurs plus belles provinces, et en revenir maudit par eux. Alors, n'ayant pas totalement respecté les accords de Plombières, Napoléon III s'abstient de réclamer les compensations, c'est-à-dire la Savoie et Nice. Alors, ce qui va débloquer la situation, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui se produit durant les combats. C'est en Italie centrale. La Toscane chasse son souverain, qui avait refusé l'offre d'alliance du Piémont, et se donne un gouvernement provisoire. Puis c'est le tour du duché de Modène, puis de la duchesse de Parme, d'être remplacée de la même manière, tandis que la Romagne pontificale s'insurge, et tous de proposer leur ralliement, leur rattachement au Piémont. Victor Emmanuel répond de manière évasive, parce que y a les grandes puissances, il faut qu'elles acceptent cela, il faut que ce soit reconnu. Mais ce désir d'incorporer ces États que vous voyez ici en brun est très grand du côté piémontais. Et ça va aller de pair avec le désir des Français de récupérer la Savoie et Nice. Et donc l'annexion de l'Italie centrale par le Piémont, donc duché de Parme, Modène, plus une partie des États pontificaux, eh bien, va permettre de réaliser l'annexion de la Savoie et de Nice par la France, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez novateur dans l'affaire, c'est qu'on va faire des plébiscites. Ça, c'est quelque chose de napoléonien, et les premiers plébiscites, c'est Napoléon Ier qui les a faits, tous victorieux, bien sûr. Et là, en l'occurrence, eh bien, les plébiscites ont donné massivement l'adhésion, aussi bien du côté italien que du côté français. Alors, Cavour aurait bien voulu éviter de céder la Savoie et Nice. Un homme comme Garibaldi, par exemple, qui était niçois, était tout à fait indigné que le Piémont lâche le comté de Nice. Mais la France menaçait de retirer ses troupes de Lombardie, qui était occupée. Alors, si elle retirait ses troupes, bien entendu, ça laissait les Piémontais désarmés vis-à-vis des Autrichiens. Alors, ces plébiscites sont les seules occasions où la population masculine a eu de participer en quelque sorte, la population paysanne, de participer à la réalisation de l'unité italienne, en dehors bien entendu des troupes. Monsieur Labrette vous a parlé donc sans doute beaucoup plus d'une manière détaillée. Du côté de la Savoie, les gens n'avaient pas l'habitude de voter. Il y a eu des pressions, il y a sans doute eu des arrangements, etc. Parce que les plébiscites ont été absolument extraordinaires. Par exemple, en Savoie, il n'y a qu'un seul village qui a donné la majorité au maintien dans l'ensemble piémontais. C'est le village qui est sur la commune duquel il y a l'abbaye de Haute-Combe, qui est le Saint-Denis de Piémontais. Bon, alors, les masses rurales sont donc concernées, elles donnent leur accord à un processus venu d'en haut. C'est alors que l'unification italienne prend un cours nouveau, avec l'expédition des Mille et la conquête du royaume de Naples entre 1860 et 1861. Alors là, l'événement imprévu. C'est vraiment le type même de l'événement. Imprévu, mais préparé tout de même. Préparé par le clan des Siciliens, à la tête duquel il y a Francesco Crispi. avec une certaine complicité de Cavour, qui rêve de prolonger le mouvement unitaire par d'autres voies. Et Crispi demande à Garibaldi de se mettre à la tête d'une expédition à destination de la Sicile, qui est le point faible du royaume de Naples et qui est toujours prompte à se rebeller. Le royaume de Piémont fournit clandestinement des fusils. Il laisse prendre par des irréguliers deux bateaux, hein, et qui vont servir, bien entendu, à emmener l'expédition. Alors, Garibaldi est l'homme de la situation. Il est populaire, il est énergique, il est courageux. Ce n'est pas l'homme aux vues militaires très... très lointaine, à longue portée, mais c'est l'homme des coups de main, de l'action directe. Il vise l'unité italienne, mais pas celle de Cavour, forcément. Il vise l'unité italienne, mais par la base, par la République. Par conséquent, vous devinez qu'il y a un risque pour Cavour confier à Garibaldi cette mission, en quelque sorte, secrète. Garibaldi, avec l'aide d'Alexandre Dumas, qui par son génie journalistique va assurer la popularité de l'expédition, et qui va acheter des armes pour Garibaldi. Garibaldi va le remercier en arrivant à Naples, en le nommant directeur des Beaux-Arts et des Antiquités. C'est lui qui aura géré Pompéi, par exemple. Ça ne durera pas longtemps, hein, bien sûr, quelques mois seulement. Eh bien, Garibaldi recrute plus de 1000 volontaires, des intellectuels, des bourgeois citadins, des étrangers, des prisonniers qu'on libère à la condition qu'ils participent à l'expédition. Et il les équipe avec des chemises rouges, comme il a fait en Uruguay lorsqu'il se mêlait de politique et d'attaque contre les gouvernements de là-bas. Je m'excuse. Ça, c'est la bataille de Magenta. Alors, vas-y. La Furia Francese. Alors, vous voyez, c'est affreux, là, avec les drapeaux brûlés. Alors, on en a un autre, là, c'est sur la bataille de Solferino. Oui. Alors là, c'est plus classique. C'est l'état-major qui surveille d'un point haut les opérations et qui donne ses ordres. C'était pas terrible, bien sûr. Voilà. Alors, voilà Garibaldi qui part d'un petit port excentré de Gênes, Quarto, avec le drapeau, vous voyez la chemise rouge. Alors, j'en ai mis une aujourd'hui. Hein. Alors, on va voir son parcours. Voilà. Alors, vous voyez, il est donc parti de Gênes, il a relâché en Toscane pour prendre des armes. Et le voilà qui débarque à Marsala le 11 mai 1860. Et à Marsala, eh bien, le voilà qui progresse en direction de Palerme, la capitale. On va peut-être revenir à la carte après, mais on va voir la première bataille, c'est Calatafimi. Vous voyez, les chemises rouges à l'assaut ici, contre l'armée du roi de Naples. Une petite armée, il faut dire, et c'est un succès. Alors, ce succès entraîne, bien entendu, le fait que Crispi installe un gouvernement provisoire à Palerme. Et de Palerme, avec des insurgés siciliens, voilà Garibaldi qui va à Milazzo, où il remporte la victoire sur les troupes du roi de Naples, qui lui permet de franchir le détroit de Messine et de remonter en triomphateur la Calabre pour prendre Naples sans coup férir. Donc, le roi de Naples se retire à Gaète. Vous voyez, Gaète est situé ici. là où il y avait le pape et le grand-duc de Toscane, et ils sortirent en combattant. Mais le royaume de Naples n'existe plus. Encore une autre, oui. Voilà. Le royaume de Naples, ben c'est Ferdinand II, vous voyez, avec sa médaille ici. Eh bien, il s'est réfugié à Gaète, qui est une place forte, et il essaye de survivre. Alors, pour Cavour, la menace se précise. Garibaldi va-t-il marcher sur Rome dans un grand mouvement populaire et démocratique et remettre en cause les bénéfices engrangés durant ces quelques mois. D'où sa décision, on va peut-être revenir à la carte, d'où sa décision d'envoyer l'armée piémontaise à Naples, pour contrer, bien entendu, Garibaldi, pour juguler ses initiatives. Mais il lui faut traverser les États pontificaux. Ils ne sont pas très larges à traverser, mais vous voyez, c'est quelque chose tout de même de très important. Ceux-ci ont été amputés de la Romagne. Là, je pense que la carte de 1860, elle n'est plus bonne pour à l'époque. Là, ça, c'est enlevé. Et il lui faut tout de même traverser les États pontificaux. Et il faut dire que le rattachement au Piémont par plébiscite de la Romagne, eh bien, a entraîné l'excommunication de Cavour et du gouvernement et du roi. Donc les rapports avec le pape Pie IX sont très mauvais et il n'est pas question qu'il accepte. Alors, Cavour demande l'autorisation à Napoléon III de traverser rapidement les États pontificaux. Alors Napoléon III lui répond, faites, mais faites vite. Je pense en Italie, en italien, fate, mais presto. Hein. Oui, presto. Alors, l'armée sarde entre donc dans les États pontificaux et se heurte ici à Castelfidardo, à la petite armée pontificale qui est commandée par un général français. Alors, vous voyez, les États pontificaux jusqu'au XIXe siècle. Eh bien, cela, ça avait été donc supprimé et rattaché au Piémont. Alors, il n'y avait plus que cette zone-là. Et Castelfidardo doit se trouver de ce côté-ci. Après, oui. Alors, voilà. Le général français, c'est le général Lamoricière. C'est un des conquérants de l'Algérie, qui a été ministre sous la Seconde République, ministre de la guerre. Et qui commande donc les troupes. Pendant ce temps-là, donc on va. Voilà. C'est les monuments à Castelfidardo, les morts des oies pontificaux qui sont ainsi ici inhumés. Pendant ce temps-là, Garibaldi n'arrivait pas à briser la résistance à Gaète. Il assiégeait toujours Gaète et le Ferdinand II résistait. Et ce que lui n'arrivait pas à faire, eh bien, les troupes royales l'ont fait. Ce qui fait que il lui faut à Garibaldi se résigner à laisser la place à Victor Emmanuel et à Cavour. Le 26 octobre, il rencontre le roi dans une petite bourgade à Teano. Et vous voyez, Garibaldi se découvre devant le roi à cheval. Et ceci constitue un des mythes fondateurs de l'État italien. Garibaldi qui cède la place au roi, donc au Piémont. Donc il le reconnaît comme roi d'Italie, ce qui sera apprécié, bien entendu, parfaitement. Quant à Garibaldi, après cette reconnaissance, choqué de voir que les réformes qu'il avait entamées à Naples et en Sicile ont été annulées, eh bien, il se retire à son îlot de Caprera. Vous savez, c'est un petit îlot qui se trouve à proximité de l'île de Maddalena, dans le nord-est de la Sardaigne.
Eh bien,
cela lui donne encore une aura supplémentaire. C'est cet homme qui a combattu et qui se retire, n'est-ce pas, sage, modeste, dans sa tanière, en quelque sorte. Alors, le 17 mars 1861, et c'est ça qui est fêté cette année, Victor Emmanuel, il a changé depuis sa jeunesse, hein. Après des élections législatives qui ont concerné justement ces nouveaux territoires, eh bien, est proclamé roi d'Italie par la grâce de Dieu, c'est-à-dire à la manière des anciens souverains, par l'autorité de Dieu, et par la volonté de la nation, c'est-à-dire qu'il avait les deux onctions en quelque sorte, et le nouveau royaume est reconnu diplomatiquement par les grandes puissances. Donc c'est le départ officiel de l'État italien, la raison des cérémonies de cette année. Alors reste à l'écart la Vénétie et Rome, que Cavour veut voir devenir capitale. Il lui reste à réaliser la fusion administrative de cet ensemble maintenant, qui va des Alpes jusqu'à la Sicile, et vous devinez que c'est une tâche énorme. Or, c'est au début de cette tâche énorme qu'il succombe à un accès de malaria, peut-être un souvenir de ses fonctions à la tête de la ferme rizicole de ses parents. Il succombe le 6 juin 1861 à l'âge de 51 ans. Alors, Cavour va manquer cruellement à l'Italie, à la fois sur le plan intérieur, parce qu'après Cavour, il y aura une succession de premiers ministres. Les gouvernements ne dureront jamais longtemps. Et surtout au plan extérieur, parce que ces gouvernements n'auront pas, bien entendu, l'audience, l'autorité vis-à-vis des grandes puissances. Et j'en arrive, bien entendu, à la dernière partie. C'est l'achèvement laborieux de l'unité italienne. Laborieux entre 1861 et 1870. Alors l'obsession, c'est toujours Rome, beaucoup plus que la Vénétie. Ce serait le couronnement. Mais, comme le pape est souverain territorial, eh bien, l'Italie est confrontée à ce qu'on a appelé la question romaine. En 1862, un des successeurs de Cavour, qui va être, Ratazzi, qui convole, vous voyez, à un certain âge. On n'a pas trouvé d'autres photos, peut-être un peu amusant. Le curieux, c'est qu'il a donc épousé une femme en robe de mariée, avec la couronne nuptiale, etc. Mais c'est un anticlérical farouche. Alors c'est un anticlérical farouche, et il a l'idée de renouveler l'expédition des 1000 de 1860. Et avec Garibaldi toujours. Mais cette fois-ci, contre l'Latium, puisque c'est tout ce qui reste des États pontificaux. Et Garibaldi est toujours prêt, toujours partant. Il réunit 3000 chemises rouges, débarque en Sicile au cri de « Rome ou la mort ». Napoléon III, devant les vives réticences des catholiques français, eh bien, demande au roi d'Italie d'arrêter Garibaldi, et c'est ce qui se fait. Garibaldi ayant commencé à franchir le détroit de Messine et à remonter en Calabre, et ce qui se fait par la bataille de l'Aspromonte, qui est la montagne qui termine en quelque sorte la botte. Vous voyez la bataille de l'Aspromonte ici, parce que Garibaldi était parti pour réaliser un peu ce qu'il avait fait. Alors vous voyez ce qui restait des états de l'Église, le Latium, c'est tout. Avec la date des plébiscites qui avaient accompagné donc ces conquêtes. Eh bien, la bataille d'Aspromonte va durer 10 minutes. Et Garibaldi va durer 10 minutes, il va faire cesser le feu. Il est blessé au pied, vous voyez, il est transporté ici par ses camarades. Il est fait prisonnier, mais la mobilisation de l'opinion internationale, surtout anglaise, va obliger le roi à l'amnistier, alors que certains de ses camarades vont être fusillés. Vous voyez la popularité. Ratazzi démissionne, bien sûr, après cet échec. Napoléon III devient alors celui qui bloque l'unité italienne, la poursuite de l'unification. De facilitateur, en quelque sorte, d'artisan, le voilà dans une position d'opposition. Alors, les Italiens pensent que le plus sage, c'est de lever l'hypothèque française et faire enlever la garnison française qui est à Rome, et en 1864, elle est évacuée contre la promesse que l'Italie ne tentera rien contre Rome et les États, ce qui reste des États du pape. Bien entendu, les Italiens pensent qu'un jour ils auront la main libre et que la capitale de Rome pourra être récupérée. Alors, en attendant, la capitale passe de Turin à Florence. Mais les Piémontais ne sont pas contents, il y a de violentes agitations à Turin. Entre-temps, la réalisation de l'unité allemande par la Prusse allait permettre de franchir une nouvelle étape du Risorgimento par l'acquisition de la Vénétie en 1866. En effet, Bismarck, qui est aux affaires, avait pour objectif d'écarter l'Autriche de l'Allemagne et de faire l'unité à son profit. Et Napoléon III, qui avait reçu Bismarck à Biarritz, avait proposé l'alliance de l'Italie contre l'Autriche pour qu'elle puisse récupérer la Vénétie. Mais l'Autriche avait bien proposé la Vénétie sans combattre à l'Italie, mais celle-ci avait dit qu'elle s'était engagée avec la Prusse, donc elle entrait en guerre avec elle. Eh bien, ça n'a pas profité aux Italiens, car tandis que la Prusse triomphait à Sadova en juillet 1866, eh bien, grâce à l'armée de Moltke qui allait nous écraser 4 ans plus tard. Ah, je me trompe là. Parce que je crois qu'on n'a pas la bataille navale. Ah non, bon, on n'a pas. On n'a pas pu la réaliser, je crois. C'était pas bon. Donc, alors, autant pour moi. La campagne d'Italie, la campagne menée par les Italiens, fut désastreuse. Ils ont été battus une nouvelle fois à Custoza, qui est un champ de bataille malheureux pour eux, malgré leur supériorité numérique. Et ils ont été battus sur mer, près des îles Lissa, dans la Triatique, malgré qu'ils avaient des vaisseaux plus modernes. Si vous voulez, les Italiens montraient toutes les faiblesses d'un État trop jeune, avec une armée qui était encore mal amalgamée. Suprême humiliation et très cruellement ressentie, c'est que l'Autriche, au moment du règlement final, a donné la Vénétie à la France, et la France a rétrocédé la Vénétie à l'Italie. Ainsi, ce sont les éclatants succès prussiens et l'entremise de la France, et non l'Italie elle-même, trop faible, qui permettaient cette avancée spectaculaire, couronnée comme d'habitude par un plébiscite massif. Pour compenser cette frustration nationale, le nouveau gouvernement Ratazzi reprend ses intentions sur Rome en 1867 en faisant appel de nouveau à Garibaldi, toujours disponible. Il masse à la frontière 3000 chemises rouges et en espérant un soulèvement à Rome. Mais la ville de Rome est solidement tenue par les oies pontificaux. Voici la oie pontificale. Après l'affaire de Castelfidardo, eh bien, l'armée pontificale avait été réorganisée par la Mauricière en faisant appel à des jeunes catholiques, qui étaient surtout des Bretons, des gens de l'Ouest, des Belges et des Hollandais. Et les oies pontificaux s'étaient très bien comportés face aux troupes de Garibaldi subissant le siège de Rome. Mais Napoléon III refuse la disparition des États pontificaux et il envoie un corps expéditionnaire qui débarque à Civita Vecchia et qui s'oppose à Garibaldi et le vainc à Mantana. Alors, vous voyez la bataille de Mantana avec les troupes françaises qui s'opposent. Le drapeau bleu, blanc, rouge ici, qui s'oppose aux Italiens. Et vous voyez ici la débâcle, en quelque sorte, des chemises rouges. Et si j'ai mis ici un fusil, c'est le fameux Chassepot. C'est le Chassepot de 1866, de l'année d'avant, c'est le nouveau modèle. Et le Chassepot se chasse par la culasse. C'est tout à fait différent que de se charger par le canon. Ça permet de tirer beaucoup plus rapidement. Et le général de Failly, qui commandait l'expédition française, a câblé un télégramme en disant « Les Chassepots ont fait merveille ». Alors les Italiens, apprenant cela, considérés comme des cobayes, ont été bien entendu tout à fait ulcérés. Et certains ont pu dire que Mantana a effacé Solferino. Alors, Rouher, qui était Premier ministre de Napoléon III dans ces années-là, a proclamé au corps législatif « Jamais, au grand jamais, les Italiens n'entreront dans Rome. » Et l'impératrice aurait même dit « Plutôt les Prussiens à Paris que les Italiens à Rome. » Mais ça, c'est peut-être le bon mot fabriqué après. Mais ça rappelle un peu plutôt Hitler que Staline à l'époque du Front populaire. C'est dire la détermination des dirigeants français, poussés par le souci de ne pas perdre leur électorat catholique, qui se mobilisait. Et au moment où l'Empire est affaibli, il y a eu l'aventure mexicaine, qui a été une catastrophe, il y a la maladie de l'empereur, qui est minée par la pierre. Il y a également le fait que la France a été bernée par Bismarck dans les conversations qui auraient permis à la France de s'étendre un peu sur la frontière du Nord-Est. C'est à cette occasion-là que le Luxembourg, le petit Luxembourg, est né en 1867 pour faire obstacle aux intentions françaises. Eh bien, Mantana, c'est la dernière bataille de Garibaldi en Italie. On ne le reverra qu'en France en 1870. À Dijon, en Bourgogne, pour combattre contre les Prussiens, reconnaissant lui envers la France. La situation est ainsi bloquée. Les Français sont revenus à Rome et ont de nouveau une garnison, ce qui va permettre de tenir le Concile Vatican I. Voilà. Le Concile réuni à Saint-Pierre de Rome, ça c'est une photographie, on connaît bien ça, Vatican II c'était pareil, les évêques alignés, n'est-ce pas, dans les travées. Et vous voyez, je crois que ceci montre bien la popularité de Pie IX, c'est que vous voyez, il est ici, le Saint-Esprit lui envoie un rayon lumineux, n'est-ce pas, et à partir du 8 décembre 1869, eh bien, le concile se tient, et c'est lui qui va trancher en faveur de l'infaillibilité pontificale, et c'est en quelque sorte le couronnement de ce mouvement ultramontain dont je parlais tout à l'heure, et qui s'explique aussi par la popularité de Pie IX. Il ne faut pas oublier que Pie IX a adopté le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, l'institution de la fête du Sacré-Cœur, c'est la fête de l'amour divin, en 1856, et en 1858, a reconnu les apparitions de Lourdes. Donc, vous voyez, il y a une sorte de popularité de extraordinaire du pape, et cette figure naïve montre qu'au fond, il est vraiment inspiré par Dieu. Alors, l'un des rares opposants, je vais quand même le mettre ici, eh bien, c'est Monseigneur Dupanloup. C'est Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, mais il va se soumettre après la décision pontificale. Donc, après avoir combattu l'infaillibilité, il se soumet. Alors, la situation va évoluer avec la déclaration de guerre de la France à la Prusse suite à la dépêche d'Ems, le 19 juillet 1870. Notre ministre des Affaires étrangères aurait pu obtenir l'alliance italienne. Je ne sais pas si ça aurait été d'un poids suffisant face à la Prusse, mais la condition, c'était bien sûr l'abandon de Rome. Donc, il n'était pas question que la France s'allie à l'Italie. Eh bien, dès les premières défaites, la garnison française de Rome est rapatriée sur le sol national, et c'est une occasion, bien entendu, pour l'Italie, pour la péninsule, profiter de l'occasion, de cette occasion. Ainsi, dès après Sedan, le 2 septembre, et la proclamation de la République le 4 septembre, eh bien, Victor Emmanuel donne l'ordre au général Cadorna, que vous voyez ici en médaillon, de faire mouvement sur Rome, après avoir demandé au pape de ne pas résister. Et vous voyez les remparts de Rome, les portes étant fermées, eh bien, l'artillerie italienne va ouvrir une porte à proximité de la Porta Pia, de façon à entrer dans la ville. Eh bien, la ville est conquise, et le 2 octobre, selon la formule habituelle, un plébiscite officialise l'annexion par, je le cite cette fois-ci, 40 785 voix contre 46. Pie IX ajourne le concile, dont les travaux ont été interrompus dès la prise de Rome. Alors, c'est ainsi que s'achève, en quelque sorte, l'unité italienne. Le plébiscite, vous le voyez, l'Italie, je pense, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Hein. L'Italie, avec le bulletin SI, va donc le 2 octobre voter, avec sous le buste de Victor Emmanuel, va voter pour l'annexion de Rome. Ainsi s'achève le grand mouvement de Risorgimento. Alors bien sûr, après la mort de Victor Emmanuel, en remerciement, alors qu'il est là au centre, on le voit mal sur son cheval, une statue équestre, il est remercié par le Vittoriano, la machine à écrire, je crois, ou il y a d'autres mots, je crois, pour caractériser ce monument. Et nous allons voir également les monuments à Cavour, qui sont beaucoup moins grandioses, bien sûr, mais où on le voit ici, relevant l'Italie, alors que ici, les différentes provinces sont représentées. Eh bien, l'Italie unie est née dans la douleur, dans les luttes, conduites par le Piémont, aux dépens des solutions populaires des Mazziniens. Alors, il manque certes les terres irrédentes, que vous connaissez bien, et ce sera l'œuvre, bien entendu, de la Première Guerre mondiale. Alors, Rome sera proclamée officiellement capitale le 1er juillet 1871, après le vote de la loi des garanties, au mois de mai. Alors, la loi des garanties reconnaît la souveraineté pontificale sur le Vatican, la libre communication avec l'étranger, la non-ingérence dans les affaires ecclésiastiques et accorde une dotation annuelle de 3,5 millions de lire au pape. C'est un accommodement que le pape aurait pu accepter, mais il l'a refusé parce qu'il a dit qu'on lui avait fait violence et il s'est considéré comme prisonnier du Vatican. Et vous savez que c'est une situation qui va durer après sa mort au pape jusqu'aux accords du Latran en 1929. Mais c'est une situation qui empoisonne la vie politique italienne, car le pape a interdit aux catholiques de voter et de participer. Et la démocratie chrétienne ne naîtra qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc pendant les 40 ans, 45 ans avant 1914, et les catholiques, en principe, ne doivent pas participer. D'autre part, réalisée en quelques décennies, l'unité italienne a été faite par le haut, celui d'une bourgeoisie modérée, économique, intellectuelle. Les populations n'ont que participé modérément au processus. Et voilà des populations qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble et qui ont un esprit de clocher prononcé. Hein, vous avez entendu parler du campanilisme en Italie. Le sud, plus pauvre, contraste avec le nord. En moins de 10 ans, le royaume est passé de 7 à 22 millions d'habitants, soit 15 millions d'habitants qu'il faut intégrer et qui n'étaient pas tous disposés à se laisser gouverner par les Piémontais, ceux-ci ayant tendance à tenir le haut du pavé avec une certaine condescendance. D'où un mécontentement et des résistances qui ont pris des formes violentes, surtout dans le sud, par des brigandages, par la guérilla, les mafias, la camorra. Et l'armée régulière italienne y a répondu par une répression parfois féroce, perdant dans ces occasions-là plus d'hommes qu'elle n'avait perdu dans les guerres de libération. Ainsi, dès le départ, la question du mezzogiorno est posée. Et la phrase de D'Azeglio, qui est bien entendu un homme qui a des belles formules, traduit cette situation. L'Italie est faite, maintenant il reste à faire des Italiens. Enfin, dernier point, le Risorgimento est une exaltation des aspirations nationales et cela contraste avec les moyens réels d'un État jeune, pauvre et dont l'unité doit beaucoup aux grandes puissances, au premier rang desquels la France. La France a perdu aussi plus d'hommes dans les guerres de libération italienne que les Italiens. Et l'Italie sera considérée pendant longtemps comme un État secondaire. Un exemple, Bismarck la méprise tellement qu'il ne la consulte pas en 1866 pour terminer la guerre avec l'Autriche. D'où un nationalisme de frustration qui retentira sur la politique italienne jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Exemple, la colonisation pour se hisser au niveau des grandes puissances, et puis ça se termine à Adoua, dans le désastre. Autre exemple, le non-respect des accords de Londres en 1915, alors que les Alliés avaient prévu que les Italiens pourraient avoir la Dalmatie et l'Istrie. Et à l'issue de la guerre, eh bien, cette promesse n'avait pas été tenue. Orlando, le diplomate italien, qui faisait partie des quatre grands, a eu un rôle vraiment tout à fait effacé. Et puis on peut parler aussi de la politique mussolinienne, politique de grandeur certes, mais à la remorque de l'Allemagne, et qui certes a permis la conquête de l'Éthiopie, mais aussi les catastrophes de la Grèce, de l'Albanie et finalement de l'Éthiopie. Eh bien, voilà, je crois, les conséquences qu'on pouvait tirer de ce siècle du Risorgimento. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.
Merci Gérard, parce que nous avons été conquis par ce développement de la conquête de l'Italie par les Italiens. Encore une fois, vous ne m'entendez pas ? Personne ? Si ? Hein ? C'est terrible ça. Vous m'entendez?
Approche le plus de la bouche.
Vous m'entendez?
Oui.
Ah, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je suis confuse. Très confuse. Alors merci Gérard, je répète, hein, parce que c'est un exposé qui nous a vraiment éclairé sur tous ces épisodes de l'Italie que nous aimons.
C'est très compliqué.
Très,
très compliqué.
C'est encore compliqué maintenant dans l'Italie moderne, parce qu'elle est divisée presque en deux. Pas tout à fait, mais disons qu'il y a le nord et le sud ne s'accordent pas. Et, bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, mais c'est la suite de ça. Il n'y a pas eu de cohésion véritable de l'Italie entre le nord et le sud. Trop de différences de culture, trop de différences de... Et voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami Gérard?
Compléter. À propos de Monseigneur Dupont-Loup, pourquoi a-t-il refusé de...
Bien, il y avait deux courants dans la catholicité depuis le XVIIe siècle. Il y avait le gallicisme, comme on disait en France. En Autriche, on parlait du fébronianisme, et qui était finalement le pouvoir des églises nationales. C'était la grande question de Louis XIV et de Bossuet, par exemple, qui étaient des gallicans. C'est-à-dire, le pape n'était pas le souverain tout-puissant à l'intérieur de l'Église catholique. Il avait, avec lui, normalement, ce sont les conciles, donc les assemblées d'évêques et de cardinaux, qui étaient normalement les détenteurs du pouvoir à l'intérieur de l'Église. Et au XVIIe siècle, le gallicanisme était plutôt triomphant. Mais au XIXe siècle, surtout après la mort de Pie VI à Valence, en France, et puis l'emprisonnement de Pie VII à Fontainebleau, par exemple, par Napoléon, il y a eu une sorte d'engouement pour ces papes qui sont apparus comme des martyrs de la Révolution, martyrs des ambitions napoléoniennes. Et à partir de là, il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé le mouvement ultramontain, qui était pour la toute-puissance des papes, finalement des souverains, des véritables souverains, et l'infaillibilité pontificale, certes limitée aux questions de dogme, entérinait en quelque sorte cette vision. Et j'ai donné les principales mesures adoptées par Pie IX, qui allaient bien entendu lui donner toute la popularité. C'est le Sacré-Cœur, c'est les apparitions de la Vierge, c'est l'Immaculée Conception, la Vierge conçue sans péché. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le développement des chemins de fer. Le développement des chemins de fer va permettre le pèlerinage à Rome. Donc il y a une foule de pèlerins qui vont arriver à Rome, qui vont assister à l'audience du pape, et ce ne sera plus un personnage aussi lointain qu'il pouvait l'être auparavant. Je crois qu'il y a tous ces éléments-là et qui ont joué.
Donc c'est un gallican. Enfin,
comment?
La position de Dupont-Loup, c'est un...
Eh bien, Dupont-Loup, il était plutôt inspiré par les idées gallicanes. Il y avait encore un certain nombre d'évêques en France qui étaient plutôt gallicans. Mais ils étaient prêts à s'incliner devant la décision du concile. Par contre, il y a des évêques, il y en a au moins un qui n'a pas accepté, et ça a donné, par exemple, en Allemagne, en Bavière, l'hérésie qu'on a appelée des vieux catholiques, un petit peu comme après le Concordat, il y avait la petite église, des gens qui n'avaient pas accepté les... Mais c'est quelque chose de très limité. Je ne sais pas si ça subsiste à l'heure actuelle, mais je crois. C'est comme la petite église, ça existe en France, dans les Deux-Sèvres, notamment, ou dans la région lyonnaise. Oui. La famille Berlier, par exemple, faisait partie de la petite église.
Heureusement, maintenant, les papes voyagent. Hein. Les papes voyagent beaucoup, maintenant. Ouais. Ils sont sortis de leur prison.
Oui, je voulais juste vous poser une question peut-être ridicule, mais à partir de quand a-t-on utilisé le mot d'Italie? Italie?
Oh, toujours.
Bah, ça a été avant.
Ça a été une expression géographique. Hein. La péninsule, c'est la péninsule de l'Italie. Bah, je crois, à l'époque de Rome, Il y avait Rome et il y avait l'Italie. Il y avait les Italiotes. Ah, quelle est l'origine du mot ?
Non, pas quelle est l'origine. À partir de quand a-t-on dit l'Italie ? Puisqu'on disait la République des États.
Même à la Renaissance.
Oui.
À la Renaissance, on disait déjà l'Italie de la Renaissance.
Non, mais pas géographique, mais politique.
Possible la Première Guerre mondiale qui a parlé d'Italie vraiment.
Oui, géographique. Non, mais il y avait les Italiens. Non, mais ce qui veut dire que on se disait pas parler à lui, piémontais, on se disait piémontais, lombard, vénitien.
J'ai envie que c'est la langue.
Comment ?
Essentiellement, c'est quand même la langue. Même s'il y avait des dialectes.
Oui.
C'est la langue italienne.
C'est la langue italienne, la langue et sa littérature.
Non, mais.
Ils s'estimaient tous italiens,
je crois que Metternich avait tout à fait raison en disant que c'est une expression géographique. La géographie a entériné le fait que la péninsule s'appelle Italie, mais à quelle époque ça, je crois que dès l'époque romaine. Hein?
C'est un problème très difficile. La langue italienne s'est développée, mais elle est, encore maintenant, il y a beaucoup de.
C'est pas moi, c'est pas ma partie. Hein,
beaucoup de gens qui parlent encore les dialectes de patois. Bon, eh bien, vous avez encore des questions à poser à notre ami Gérard. Encore une.
Je voudrais parler de Cavour.
Oui.
Quand Cavour est allé à Plombières.
Oui.
Il est allé, au départ, il n'était pas mandaté expressément, il est allé un peu incognito, en tout cas la traversée.
Ah ben il est allé incognito, oui c'est sûr.
Oui.
Et la rencontre est apparue comme fortuite, oui. Du fait que l'empereur allait aux eaux, comme on disait à l'époque. Oui. Oui.
Enfin, peut-être on peut rappeler que les enfants de Garibaldi se sont battus.
Les fils aussi, oui, les fils de Garibaldi.
Les petits-fils de la guerre de 14.
Ouais.
Qui a composé l'hymne national ?
C'est un nommé Mameli. C'est un jeune étudiant. Il a écrit la musique et c'est un de ses camarades qui a écrit les paroles sur la musique. En 1847. Et ce n'est devenu officiellement l'hymne italien qu'en 2005. Ça a été l'hymne, je crois, à partir de 1946, l'hymne de la République, puisque avant c'était la royauté. Et c'est donc d'une manière officielle, toute récente.
La compagne du Garibaldi, elle est bien morte du côté de Ravenne. Ouais.
Alors, la première compagne, c'est Anita. Anita qui était née au Brésil.
Oui.
D'ailleurs, il y a une ville au Brésil qui s'appelle Anita Garibaldi, l'endroit où elle est née. Et elle était enceinte, effectivement, dans la première... la retraite que Garibaldi a fait son échec. Oui, c'est après l'échec de la Révolution romaine. Et Anita était avec lui, elle était enceinte de 5 mois. Et la retraite a été extrêmement difficile pour elle, jusqu'à la mer Adriatique où on prenait un bateau, parce que Venise résistait encore. Alors Garibaldi avait le projet d'aller à Venise donner le coup de main à Manin. Et il a fallu, sur le bateau, revenir sur la terre ferme parce qu'Anita était mourante. Elle est morte. Elle est morte, je crois, au delta du Pô, près de Comacchio.
Voilà.
Oui, il a eu plusieurs. Il a eu, je crois, trois femmes. Hein. La dernière, c'était sa dame de compagnie, en quelque sorte.
Merci Gérard.